Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour et heureux de vous retrouver pour une demi-heure de Fidèle au poste. Dernier jour de la semaine dans lequel nous évoquerons le film Shoah, mais également la musique de Bernard Herrmann. Mais pour commencer, un petit Jacques Brel, Isabelle.
Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la coquine, les oasis du Sahara, les poissons dorés de la Chine et les jardins de l'Alhambra. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie, elle vole les rêves et les jeux d'une rose et d'un bouton d'or pour se les poser dans les yeux. Belle Isabelle, quand elle dort. Quand Isabelle rit, plus rien ne bouge. Quand Isabelle rit au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la cruelle, le rire des cascades sauvages qui remplacent les escarcelles des rois qui n'ont pas d'équipage. Quand Isabelle rit, plus rien ne bouge. Quand Isabelle rit au berceau de sa joie, elle vole les fenêtres de l'or qui s'ouvrent sur le paradis pour se les poser dans le cœur. Belle Isabelle, quand elle rit. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la dentelle tissée au cœur de rossignol et les baisers que les ombrelles empêchent de prendre leur vol. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, elle vole le velours et la soie qu'offre la guitare à l'infante pour se les poser dans la voix. Belle Isabelle, quand elle chante.
Après l'émouvant récit de Lisou, voilà enfin celui de sa grande sœur, Mylène, qui, pour sauver sa famille, se sacrifia et vécut l'innommable réalité des camps de concentration. Marion Achard.
Alors que Lisou réussit à s'enfuir au moment de la rafle, Mylène, elle, décide de brûler les papiers d'identité de la famille et tous les courriers, tout ce qui pourrait faire preuve de leur identité, en espérant que si les nazis ne trouvent rien dans le chalet, ils pourront rien lui faire, mais les Allemands qui frappent, les SS qui sont là, trouvent un courrier avec son nom dessus et l'emmènent à la Gestapo d'abord, puis à Drancy, puis à Auschwitz-Birkenau, d'où elle est transférée ensuite à Bergen-Belsen, puis au camp de Ragun et enfin au camp de Theresienstadt, avant de rentrer en France assez miraculeusement.
Un récit utile et indispensable que ce « Quand la nuit tombe, Mylène », la BD de Marion Achard et Tony Galmetz. Septembre 1943. Née juive comme d'autres, Mylène et sa sœur Lisou se cachent avec leur famille dans un chalet à 12 km de Grenoble. Mais le destin les rattrape et les sépare. Lisou s'échappe, tandis que Mylène est arrêtée par les nazis avant d'être déportée dans un camp de concentration en Pologne. Ce récit et son histoire.
C'est l'histoire de mes grand-tantes, donc j'ai toujours été touchée par leur histoire et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas éternelle. Mylène a actuellement 102 ans et qu'il était important d'aller l'interroger et puis de connaître l'histoire avec plus de détails pour que sa mémoire reste déjà dans la famille et aussi qu'elle s'étende et qu'elle fasse peut-être réfléchir les générations à venir.
Quand la nuit tombe, Mylène se distingue par une atmosphère sombre et poétique. Les dessins, à la fois raffinés et évocateurs, capturent avec sensibilité la dualité entre l'ombre et la lumière, révélant la profondeur des émotions de ces personnages.
Tout comme pour le tome de Lizou, mais encore plus pour celui de Mylène qui effectivement nous fait rentrer dans les camps, l'idée était de rendre cette BD accessible. Et on s'est dit que si le dessin était trop dur, des gens auraient peut-être laissé l'album de côté parce que trop difficile à regarder. On n'a pas forcément envie de se replonger dans cette histoire. L'idée, c'était vraiment que les gens aillent jusqu'au bout et lisent, que les lecteurs aillent jusqu'au bout et lisent jusqu'au bout ce récit. Et pour ça, il fallait les attraper aussi par quelque chose de sensible et contrebalancer cette difficulté du témoignage par quelque chose de plus beau à regarder.
Par sa scénarisation épurée et ses illustrations soignées, la BD invite le lecteur à explorer un univers où la nuit devient le reflet des états d'âme. L'œuvre est à la fois mélancolique et pleine d'espoir, interroge la solitude et la quête d'identité dans une ambiance résolument nocturne.
Mylène a eu beaucoup de mal à confier ce témoignage parce qu'elle probablement n'avait pas envie de se replonger dans cette histoire lointaine et douloureuse, mais qu'elle l'a fait en me répétant qu'elle racontait toujours à ceux qui lui posaient la question. Et ça me paraît important de transmettre, d'autant plus qu'elle a eu du mal à le faire et que c'est une mémoire qui est précieuse et qui est fragile.
Quand la nuit tombe, Mylène, de Marion Achard et Tony Galmetz, est disponible aux éditions Delcourt.
Demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résiste et sois fort. Une étoile dira le retour de tes rêves, des anciens beaux jours, et ta peine alors sera peine. Car le monde chantera l'amour. Garde l'espérance, un autre temps viendra, et la chance demain sourira.
De l'espérance, vous avez bien entendu reconnu la version française de la Hatikva, l'hymne national israélien.
Le coin des archives.
Il est temps pour nous d'aller plonger dans les archives sonores en 1985. Claude Jean-Philippe et Pierre Donadieu recevaient dans leur émission Le cinéma des cinéastes Claude Lanzmann. Il était invité pour la sortie de son film Shoah. C'est le coin des archives.
J'avais fait un film, mais ça c'est complètement anecdotique, je veux dire, ce sont des raisons d'occurrence. J'avais fait un film sur Israël qui est sorti en 73, qui s'appelait Pourquoi Israël, et qui avait eu un succès critique formidable, 100 000 spectateurs en France, au cinéma. Pourquoi Israël s'ouvre par l'Holocauste et se termine par l'Holocauste. Enfin, il y a un simple appel et rappel. Bon, et d'une certaine façon, je devais avoir ça quelque part, enfin bon. Et on m'a demandé de m'attaquer à ça. Je n'y ai pas pensé moi-même. On m'a demandé de m'attaquer à ça. Et J'ai pas hésité très longtemps avant de répondre oui, et en même temps je n'avais pas l'ombre d'une idée sur la façon dont j'allais traiter le film.
On sait qui ?
On sait des amis qui ont vu, qui avaient vu Pourquoi Israël et qui avaient énormément aimé ce film. Mais très vite j'ai su qu'il n'y aurait pas l'ombre d'une image d'archive. D'abord il n'y en a pas. Et pour ce que je voulais faire, puis des vieilles images usées, des images sans imagination, si je puis dire.
Et puis elles sont quand, surtout qu'on les a en tête, les images, puisqu'on les a vues dans d'autres films.
C'est les mêmes qui sont partout reprises, c'est quelques films de propagande.
Mais par rapport à Shoah, elles n'ont plus de signification du tout.
Il m'est arrivé quelque chose que j'ai trouvé absolument obscène, vraiment obscène, il y a la semaine dernière. Interviewé pour une émission de télévision, un type qui n'avait pas vu le film, évidemment, parce que beaucoup croient qu'ils peuvent se passer de le voir, puisqu'ils prennent ça pour un, je sais pas pourquoi, pour un documentaire, ou pour... ils prétendent qu'ils ont la science infuse, enfin. Il avait planté un décor derrière moi, et c'était des images de Drancy, bon, des images d'époque. Et je suis entré dans cette salle et j'ai eu un haut le cœur, enfin. J'étais littéralement révulsé. Il y avait quelque chose d'obscène.
Oui, mais d'ailleurs, d'ailleurs, il se trouve que le thème avant vous, je mets tout à fait à part Nuit et Brouillard, que le thème avant vous a donné lieu à obscénité.
Hein,
Portier de nuit, des choses comme ça.
Oui.
Enfin,
oui, ça c'est
ou la fiction, ou l'Holocauste devenu un feuilleton à succès.
Absolument.
Donc
absolument.
Ça, c'est très étrange que les victimes soient poursuivies jusque 30 ans après leur mort par cette obscénité d'un regard suspect.
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, mais là, ce que je veux dire, ce qu'il y avait d'obscène, c'est que s'il avait vu le film, il n'aurait jamais osé faire ça. Il n'aurait jamais planté derrière moi un décor de vieilles photos de Drancy qui ont traîné partout et qui ne veulent rien dire. Et ce qui me frappe, c'est que, par exemple, la photo du conducteur de la locomotive dans mon film, par exemple, le conducteur polonais, enfin, quand il arrive à la gare de Treblinka, a été reproduite par tous les journaux. Ça devient une photo réellement historique, cette photo-là.
Oui.
Ça devient plus vrai que le vrai, d'une certaine manière.
Reprenons le parce que il y a l'incident de l'émission de télévision.
Oui.
Mais alors, des amis vous demandent de faire ce film.
Bon, et je me suis...
C'était à quel... C'était il y a très longtemps.
C'était juste après Pourquoi Israël, c'était en 73.
C'est ça. Donc, ça, ce film a envahi...
C'est en 74.
Et ce film a envahi votre vie pratiquement de...
Ah oui, totalement. Totalement. Et je me suis mis à lire. J'ai lu vraiment des tas de livres, enfin, tout ce que j'ai pu trouver, des livres d'histoire très très sérieux, enfin. Et les gens me demandaient, mais quel est votre concept ? Et j'étais incapable de répondre. Je n'avais pas de concept. Et c'est une sottise, par-dessus le marché, de demander ça. Le concept, c'était autre chose. Le concept, c'était la patience, d'abord, une incroyable patience, et puis une espèce de grande urgence topographique en moi, si je puis dire, la confrontation du savoir théorique que j'avais acquis avec, soudain, la réalité des lieux. Aujourd'hui. Et ça, ça a été quelque chose de très, très, de très explosif. Et je sais pas, ça a été un travail de...
Ah ben justement, alors, justement, si je pouvais définir Shoah pour ma part, je dirais que c'est le passage du savoir à la conscience. C'est-à-dire qu'on découvre, en regardant Shoah, c'est en cela d'ailleurs que le film est si fort. C'est que c'est des choses qu'on est réputé savoir. Alors, prenons un exemple précis, si vous voulez bien. Il y a un moment dans le film, tout à fait prodigieux. Vous filmez un coiffeur dans son échoppe de coiffeur, dans son salon de coiffure en Israël, je crois. C'est bien ça. Bon, c'est un témoin d'ailleurs que nous avons déjà vu parler dans le film, que vous avez déjà interrogé, je crois.
Ah oui, ça c'est dans le deuxième film.
C'est ça, c'est dans le deuxième film. Oui. Bon, c'est la deuxième partie de Shoah.
Oui.
Alors, vous le filmez dans son salon de coiffure, en plan large. Il n'est pas seul. Il est en train de coiffer quelqu'un. C'est vous qui lui avez demandé, visiblement, de coiffer quelqu'un.
C'est plus que ça, c'est du cinéma.
Oui.
C'est une vraie mise en scène. Il n'a pas de salon de coiffure. Il est retraité. Il est retraité. Et quand je l'ai découvert à New York, parce que je le cherchais partout. Je savais qu'il existait, mais personne n'avait une adresse vieille de 20 ans. Et je l'ai découvert à New York, après une véritable traque, enfin littéralement. Et là, il était coiffeur à ce moment-là, dans un sous-sol de la gare de Pennsylvania Station. Et très bien, bon, j'ai parlé avec lui.
Et puis j'ai passé... Vous l'avez rencontré sans caméra, vous n'avez pas de caméra,
oui,
la première fois où vous l'avez vu.
Rien, oui, dans les mains, rien dans les poches. Oui. C'était une des nombreuses enquêtes exploratoires, ah, oui, que j'ai faites, préparatoires. Et j'ai passé une journée entière avec lui dans les Catskills, où il avait une petite bicoque. Je suis resté la journée entière. Bon, et puis il fallait établir des relations de fraternité, ça n'était pas si simple. Bon, et j'ai dit que je reviendrais dans un an ou dans deux ans, je ne savais pas, parce que je ne savais pas à quel moment je pourrais commencer à tourner. Il y avait des questions d'argent, c'est très difficile. Et quand je suis revenu en Amérique pour tourner, avec un plan de travail, un programme de travail, etc., tout que je n'ai pas pu réaliser aux deux tiers, parce que je n'avais pas assez d'argent. Bon, je lui avais écrit plusieurs fois, je n'avais pas eu de réponse, et je me suis amené, il n'était plus là. Il était en Israël, il était parti vivre en Israël. Ce qui fait que j'ai dû retarder avec lui le tournage d'un an, et je n'avais même pas sa nouvelle adresse en Israël. Et je l'ai retrouvé, et tout de suite, quand il m'avait parlé pour la première fois dans les Catskills de la façon dont il coupait les cheveux des femmes, etc., il disait des choses bien plus terribles encore que je n'ai pas montées, parce que je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après la guerre ?» Quand vous avez
que vous avez filmé, que vous avez filmé ces choses.
Oui, 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 je l'ai tourné. Quand vous avez recommencé à coiffer, parce qu'il était coiffeur pour femmes aussi, et il me dit il y avait une chose terrible, quelque chose manquait, ou était en trop. Elles arrivaient habillées cette fois. Et alors qu'aux chambres à gaz, elles étaient déjà nues. Bon, et je savais que ça allait être très dur, et j'ai voulu le remettre vraiment dans... Et j'ai décidé de louer un salon de coiffure. Je l'ai loué, c'est du cinéma.
Oui, d'accord. Alors, je raconte la scène. Enfin, il est là, il coiffe un client, disons, qui est donc un figurant, puisqu'il s'agit de cinéma.
Il c'est est pas un figurant, il le coiffe vraiment.
Il le coiffe vraiment, il le coiffe vraiment, oui. Et alors, c'est là, bon, alors c'est là qu'il y a peut-être que l'esprit du film est le plus flagrant pour moi. C'est-à-dire que il prend un ton objectif.
Exact.
Il prend, de lui-même, il semble-t-il, il prend un ton objectif. Et puis, alors, suivant votre manière d'interroger les gens, qui est assez unique dans les annales de l'interview, disons, vos questions sont d'une précision, ne sont que précises, enfin, ne sont que précises. Alors que tous les, enfin, il y a les intervieweurs, les intervieweurs sont comme les policiers. Il y a les gentils, puis les méchants, ceux qui mettent des pièges sous le nez qui posent la mauvaise question pour que la personne se décompose, etc. Là, pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre. Y compris avec les bourreaux. Bon. Et d'ailleurs, il y a très peu de différence dans votre façon d'interroger les victimes et d'interroger les bourreaux. Sous la pression des questions.
Là, quand même. Les victimes, je les caresse. Enfin, je veux dire, je les...
Oui.
Je les étreins.
Non, oui, mais c'est une nuance.
C'est
une nuance.
Oui.
Mais la précision est la même.
Oui, oui.
Et elle est presque cruelle. Oui. Elle est presque cruelle. Parce qu'elle est, d'une certaine façon, cruelle avec ce garçon, avec ce personnage. Oui. Et il y a un moment où il raconte le pire. Vous allez aller voir le film, donc je ne vous raconte pas le pire. Ben d'abord parce que j'ai peur de ne pas pouvoir le raconter. Et à ce moment-là, il éclate en sanglots. Et il vous demande d'arrêter de tourner. Et à ce moment-là, on entend votre voix disant « Non, on n'arrête pas de tourner. » Et il est réellement comme quelqu'un qui ne peut plus parler. Alors, dans le passage de ce ton objectif à ses sanglots et à la façon dont il reprend... son récit par la suite, il y a tout le passage du savoir à la conscience. C'est-à-dire que il dit des choses, et puis soudain, on les vit complètement au présent avec lui, et c'est la première fois, à mes yeux, que on vit avec lui. En fait, on vit avec les femmes. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est avec les victimes en pensée.
C'est absolument étonnant ce que vous me dites, parce que pas plus tard que ce matin, j'ai vu un homme qui avait vu le film, un médecin, et qui me dit c'est la première fois que j'ai entendu le cri d'un enfant dans une chambre à gaz.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Once upon a time, in a beautiful country, lived a big and strong animal, known as Moïse, the elephant.
I'm always giving in the shame.
What have you done?
I'm giving in the shame.
Moïse, the elephant.
My best year is all but gone.
What have you done?
Aujourd'hui, je vous parle d'un livre passionnant sur l'univers de Bernard Herrmann, l'un des plus grands compositeurs de musique de film, à qui l'on doit la bande originale de Citizen Kane, de Taxi Driver, ou encore des plus célèbres films d'Alfred Hitchcock. C'est le compositeur, pianiste et docteur en musicologie Carole Beffa qui lui rend hommage dans un ouvrage passionnant, sobrement appelé Bernard Herrmann.
C'est effectivement un compositeur que l'on retient surtout comme compositeur de musique de film et qui en réalité s'est exprimé sur plusieurs registres. Il a commencé par écrire de la musique pour le concert. Certaines œuvres d'ailleurs ont été ensuite réutilisées, réemployées on peut dire, dans ses musiques de film. Il a aussi beaucoup écrit de musique de fiction radiophonique, c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est formé essentiellement. Puisqu'il a certes suivi une formation académique relativement longue, mais il ne s'est entendu avec à peu près aucun de ses professeurs. Et on peut dire que, après cette relative école buissonnière, c'est surtout par la fréquentation assidue des concerts et des partitions qu'il s'est formé. Et il s'est également formé par l'expérience, sur le tas on peut dire, en écrivant des musiques d'illustration sonore pour des fictions radiophoniques.
Comme nombre de très grands compositeurs hollywoodiens, Bernard Herrmann a des racines juives d'Europe de l'Est.
Dans son cas, effectivement, on peut dire que la famille de sa mère, comme la famille de son père, avait fui la politique de russification massive et d'antisémitisme qui était renforcée par le tsar Alexandre III. Raison pour laquelle ils étaient partis pour l'Amérique. Son père est une sorte d'aventurier assez étonnant. C'est un personnage véritablement romanesque. Il a fait à peu près tous les métiers du monde. La mère de Herrmann, elle, est élevée dans la foi, l'observation scrupuleuse du judaïsme, et elle n'a pas reçu d'instruction. La seule chose peut-être qui est un point commun qu'elle a avec Abraham, c'est un caractère très trempé. En tout cas, on peut dire que ces racines juives marquent probablement l'enfance de Herrmann. Il dira lui-même plus tard que s'il aime le débat d'idées d'une part, s'il a un certain sens de l'autodérision, s'il aime l'humour juif, eh bien, c'est de ses parents qu'il tient tout cela. The King of Schnorrers, donc c'est effectivement le roi des Schnorrers, d'Israël Tsangville, qui est cet auteur qu'il admire depuis l'enfance, est une comédie musicale qui n'est pas vraiment entrée au répertoire, alors même qu'il y a un certain nombre d'airs parfaitement réussis, semble-t-il. D'abord parce que Herman, avec son sens évident du pastiche, arrive à pasticher avec génie la musique yiddish. En tout cas, il se trouve que l'air le plus connu dans Taxi Driver, dernière partition de musique de film composée par Herman, va s'inspirer de la musique que Herman avait déjà composée pour Le Roi des Schnorrers. Et c'est avec un arrangement assez jazzy que l'on connaît aujourd'hui cette musique.
Dans un style vivant et très accessible, cet essai biographique brosse le portrait d'un homme qui suscite l'admiration pour un haut niveau d'inspiration de ses musiques et la perfection de son artisanat.
Pour cette fameuse scène de la douche, l'idée première de Hitchcock, c'est de ne pas avoir de musique. Et il faudra la persévérance, la détermination de Herman et le fait qu'il lui fasse entendre la fameuse scène en projection avec musique d'une part et sans musique de l'autre pour arriver à le convaincre qu'il faut effectivement cette musique. Et heureusement qu'il l'a convaincu.
Indispensable à tous les amateurs de cinéma et ou de musique, Bernard Herrmann de Carole Beffa aux éditions Actes Sud donne furieusement envie de revoir de grands films. Merci d'avoir partagé votre début d'après-midi avec nous. Demain sur Radio Judaïka, c'est vendredi, les émissions pré-shabbatiques. Nous nous retrouverons donc lundi pour une nouvelle semaine de Fidèles au Poste. Permettez-moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, un excellent week-end et à lundi!